7h47 sur France Culture, la transition d'Hervé Gardette. Le gouvernement américain a officialisé avant-hier la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Elle sera effective le 4 novembre 2020. Mais la décision de Donald Trump engage-t-elle toute l'Amérique ?
S'agit-il d'un résidu de notre passé monarchique, d'une déformation liée à la façon d'appréhender le pouvoir sous la Ve République ? Notre manie d'envisager l'identité d'un pays à travers la seule figure de son principal représentant politique nous égare s'agissant des États-Unis. L'Amérique ne se résume pas à son président. Tout y est excessif, certes, mais tout ne va pas dans le même sens. Au cours d'un même voyage, on peut par exemple visiter cette abominable excroissance qu'est la ville de Las Vegas, énorme champignon climatisé placé en plein milieu du désert du Nevada, puis se perdre dans une nature exubérante. La notion de grands espaces a dû être inventée exprès. Les parcs nationaux sont des modèles de protection de l'environnement. Les rangers qui y patrouillent se mettent à son service comme à celui de leurs visiteurs. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, on pourrait penser que les machines à sous ont remporté la mise, que sa conception de l'American Way of Life a fini par s'imposer. Et il est vrai qu'il y a de quoi être pessimiste à présent que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris est confirmé. Le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre devient le passager clandestin d'une communauté internationale déjà bien mal engagée à limiter les effets du réchauffement. Pour l'heure, le retrait du gouvernement américain de l'accord de 2015, annoncé officiellement en juin 2017, a eu des effets limités. En vertu des règles juridiques qui y sont inscrites, ce retrait ne sera effectif au plus tôt que le 4 novembre 2020, au lendemain de la prochaine présidentielle, que Trump l'emporte une seconde fois, s'il n'est pas destitué d'ici là, et la situation sera bien plus grave pour la défense du climat. Plus grave, mais pas désespéré, car l'Amérique ne se résume pas à son président. Comme le note la correspondante à New York de Libération, le pays part aujourd'hui dans deux directions opposées. D'un côté, l'administration Trump, de l'autre, une société civile plus motivée que jamais, et la moitié des États américains et 430 villes qui se sont engagées à respecter les engagements de l'accord de Paris et ont voté des législations ambitieuses. L'arrivée de l'homme d'affaires à la Maison-Blanche aurait même stimulé les initiatives locales, le local pouvant atteindre ici la dimension d'un État, comme la Californie à la pointe de la mobilisation pour le climat et qui s'engage à produire 100% d'énergie renouvelable d'ici 2045, ou comme le Texas, paradis pétrolier, univers impitoyable qui investit massivement aujourd'hui dans l'énergie solaire et éolienne. Solienne, ça vous c'est une contraction des deux. Les Américains s'organisent pour lutter contre la politique climatique de Trump. C'était l'objet d'un article des Échos l'an dernier, peu après que le gouverneur de Californie ait organisé un sommet sur le climat à San Francisco. C'est qu'aux États-Unis, les États ont à leur disposition des leviers très puissants en matière de politique environnementale. Via des décrets et des lois, je cite l'article, ils peuvent contrecarrer les décisions prises par le pouvoir central. Les villes, quant à elles, contrôlent tout ce qui concerne l'aménagement urbain, les transports publics et la gestion de l'eau. L'architecture politique est ainsi faite aux États-Unis que l'exécutif n'y dispose pas des pleins pouvoirs. La Chambre des représentants, désormais dans l'opposition, et le Sénat y sont autrement plus puissants que notre Parlement. Et la structure fédérale, conçue pour résister à Washington, offre une autonomie aux différents acteurs qui ne se privent pas de s'en servir. Or, si le retrait américain de l'accord de Paris est une très mauvaise nouvelle, la capacité qu'a la société américaine d'y résister peut être une source d'inspiration. À l'heure où, en France, des maires se font retoquer par les préfets pour avoir pris des arrêtés anti-pesticides, il serait intéressant de réfléchir, à la lumière des institutions américaines, à une autre répartition des pouvoirs pour que, de la même manière que les États-Unis ne se résument pas aux locataires de la Maison-Blanche, la France ne se limite pas à celui de l'Élysée.
Merci Hervé Gardette.